Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Quand le monde extérieur est source de malheur, que la réalité est triste à pleurer, ne vaut-il mieux pas se réfugier dans un monde intérieur, se nourrir de fiction et vivre mille autres existences que la sienne ? Et particulièrement en ces temps où nos certitudes sont bousculées. C'est ce que nous propose notre invité aujourd'hui avec son nouveau livre qui fait l'éloge de l'imagination, celle des artistes, des auteurs, qu'ils écrivent des scénarios pour des séries télévisées ou des romans, des univers parallèles qui parfois deviennent plus forts que la vraie vie. Bonjour Tonino Benacquista.
Bonjour, bonjour Catherine.
Vous venez de publier ce roman donc intitulé « Toutes les histoires d'amour ont été racontées sauf une » aux éditions Gallimard et qui raconte en effet comment un homme un jour décide de tourner le dos au monde réel suite à un accident dans sa vie personnelle et il se renferme et finalement consacre son temps à regarder les autres par écran interposé. Et c'est un choix qui résonne plus que jamais avec les dernières semaines que nous venons de traverser, où beaucoup en ont profité pour lire, pour dévorer des séries. Et vous, Tonino Benacquista, qu'est-ce que vous avez fait ?
Ben moi, j'ai pas tellement changé de quotidien en fait. Quoi. C'est un peu, ça fait 30 ans que je travaille chez moi, que j'ai à peu près les mêmes horaires. En plus, je suis quelqu'un de très sédentaire, donc disons qu'on a tous été pénalisés, mais peut-être moi un peu moins, quoi, parce que j'ai continué dans mon exercice quotidien. J'ai plus lu, effectivement, que d'habitude, qu'en temps normal. Et j'ai lu plus par plaisir que par nécessité. Et ça m'arrive jamais, quoi. Bon, voilà. Mais donc, je suis resté à Paris, voilà, ou deux mois entre travail et lecture.
Et vous avez donc visiblement bien vécu cette étrange période. Est-ce que vous aussi, vous avez beaucoup regardé des séries, du coup ?
Oui, j'en ai découvert certaines. Enfin, c'est vraiment quand on m'en conseille une, hein, quand on me dit « Ah là, il y a un truc particulier, etc. » Parce qu'il y en a tellement, il y a une telle abondance, il y a une telle profusion. Il doit y en avoir 10 nouvelles par jour. Donc, je suis assez sensible aux bouches à oreilles et à la manière dont on me dit « Ah tiens, là, il y a peut-être un truc. » Mais la consommation vraiment quotidienne et pas forcément.
Et pour en finir avec ce moment inédit que nous venons de vivre, est-ce que pour vous, Tonino Benacquista, c'est une parenthèse et au terme de laquelle vous allez reprendre votre vie comme avant, ou vous avez déjà peut-être décidé que c'était l'occasion de changer deux ou trois choses dans votre existence à l'avenir ?
Alors ça, c'est une question que je ne me suis pas posée, certainement. Enfin, en tout cas, dans ma perception du temps et de... Je suis resté à peu près assez concentré sur ce que j'avais à faire. J'ai continué, je me suis pas... Un peu comme le personnage de mon bouquin, j'ai décidé de me couper de l'information au maximum, d'avoir que les nouvelles essentielles, parce qu'à un moment donné, il y a eu une cacophonie telle que je me suis dit que ça allait pas être possible. Et c'est exactement la démarche du personnage dans mon bouquin. Donc voilà, il y a eu cette parenthèse où j'ai préféré traverser... Voilà, toute cette période de manière un peu inconsciente, parce que forcément, elle a été pénible pour nous tous. Bon, j'imagine que, voilà, il est question de ça, de se dire, voilà, est-ce que le monde d'avant, est-ce que ceci, cela, il y a des grandes résolutions, etc. Je pense pas que ça va beaucoup affecter nos modes de vie. En tout cas, ça ne va pas les remettre en question. Et hélas, peut-être. Enfin, je veux dire, je sais pas si on va tirer des enseignements de cette période dès qu'elle va un tout petit peu s'éloigner.
Et c'est vrai, vous veniez de le dire, Tonino Benacquista, que vous aviez vécu un peu sur le même mode que votre personnage. Et quand on commence votre roman, si on le lit à l'heure du confinement, on est frappé par cette espèce de situation où on est tous en mode escargot, comme Léo, votre héros, et vous dites même à un moment qu'on va tous mourir à cause d'un virus inédit. Donc ça, c'est quelque chose même que vous avez évidemment écrit bien avant la pandémie. Oui. Ça a dû vous frapper, non, d'être un tout petit peu, enfin d'une certaine façon, rattrapé par la réalité ?
Oui, moi je ne l'avais pas imaginé en termes de confinement, évidemment, parce que le mot était bien moins utilisé que maintenant, mais pour moi c'était un ermitage, c'était vraiment alors un confinement volontaire. Et puis voilà, il y a tous ces questionnements que ce personnage peut avoir sur le monde réel et éventuellement les dangers alors effectivement, celui que vous citez, c'est-à-dire le virus inédit, fait partie d'une liste de tout un tas de menaces qui, à tort ou à raison, peuvent nous inquiéter. Mais lui le fait, enfin, lui se confine. Enfin, moi, pour moi, c'est un ermitage plutôt. Le terme, ce serait ermitage, ou thébaïde, ou une traversée en solitaire, ou quelque chose comme ça. Je le pensais dans ces termes-là. Mais c'est vrai que pour moi, c'est quelqu'un qui se fâche avec le réel, quoi. Mais le fait que le réel soit d'un seul coup aussi extravagant et nous tombe dessus, ça, non, je l'avais pas prévu dans mon bouquin, oui. On est tous les héros de cette situation complètement folle qui nous est tombée dessus. Et ça, d'une certaine manière, la fiction n'y peut rien, quoi. Il n'y a que le réel qui est capable d'un truc pareil.
Alors, rentrons un peu plus dans votre roman, Tonino Benacquista. Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une, qui rend hommage donc aux séries, dans un premier temps, une affinité qu'on vous connaît depuis longtemps et que vous aviez déjà mis en scène dans votre roman Saga, il y a un peu plus de 20 ans, avec donc ce personnage, Léo, qui devient photographe, qui voyage dans le monde entier, qui tombe amoureux, on reviendra sur ce sujet. Et puis, suite à un accident, nous n'en dirons pas plus, et se coupe du monde extérieur et avale des kilomètres de séries. Je me demandais, Tonino Benacquista, comment est-ce que vous expliquiez ce choix de se réfugier dans la fiction? Est-ce que c'est parce que la vie, en effet, est trop décevante, trop courte et manque d'imagination? Ou c'est parce que les arts, la littérature, le cinéma, l'écriture ont plus de force, quoi qu'il arrive?
Disons qu'il y a peut-être une troisième possibilité, dans c'est que, en tout cas, dans son souci à lui, c'est pas tellement la vie réelle qui serait décevante, c'est la manière dont on en parle, c'est-à-dire la manière dont on la commente. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, comme vous l'avez dit, est victime d'un accident. Alors il a, voilà, c'est un accident, mais ça aurait pu être n'importe quel accident. Sauf que cet accident fait que tout s'écroule comme des dominos qui tombent les uns après les autres, et tout s'écroule d'un seul coup dans sa vie. Et là, il ne peut pas se satisfaire du mot accident, ça suffit pas. Pour lui, c'est une injustice terrible. Et puis, bon, évidemment, pour tout le monde, c'est un aléa. Et il n'arrive pas, dans son état de désarroi, il n'arrive pas à se raccrocher à un discours. Et ça, c'était le point important. C'est-à-dire, il a le réconfort des amis, comment dire, le recours à la médecine ou à la psychothérapie ou à tout, à la philosophie, à l'essai. Et là, fait que il ne trouve de réponse à ses questionnements nulle part. Et nulle part parce que justement, il y a cette cacophonie qui fait que tout et son contraire vont être défendus. Et à partir de ce moment-là, il est perdu. Il ne trouve pas ses réponses. Moi, c'est vrai que peut-être en tant qu'auteur, mais aussi beaucoup en tant que lecteur et spectateur, je crois au pouvoir de la fiction. Alors, il y a effectivement un pouvoir cathartique, hein, qu'on connaît depuis longtemps, mais je trouve qu'en ces temps troublés que nous sommes en train d'évoquer, il y a quelque chose qui ne trompe pas dans une fiction, c'est tout simplement l'émotion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une situation, qui peut être très complexe, hein, parce que c'est pas vivre par procuration ou aller vers une espèce de divertissement qui purement récréatif, qui vous fait juste penser à autre chose et oublier les petits malheurs. C'est pas ça. C'est que lui, c'est au contraire, une recherche active de questionnement et de réponse. Il les trouve dans la fiction parce que la fiction ne lui ment pas. Quand ça marche pas, ça marche pas. Il passe à une autre. Et quand ça marche, quand il se retrouve devant une situation qui peut être complexe, qui peut être raffinée, qui peut être absolument juste, là, il y a quelque chose qui se passe dans son esprit, son inconscient, ou son esprit conscient, ou ses facultés d'analyse, qui font que quelque chose a avancé. Et il n'aurait pas ce recours ou ce réconfort-là dans le discours, même philosophique, même idéologique, même politique, même n'importe lequel. Il ne croira plus au discours quel qu'il soit. En revanche, il va laisser s'exprimer son émotion. Et je pense que nous en sommes tous là. C'est-à-dire que quand nous sommes touchés par une description dans un livre, il se passe là quelque chose d'essentiel qu'on ne trouvera nulle part ailleurs que dans la fiction. Voilà. Et c'est le principe de ce bouquin. Et c'est ce qui m'intéressait, c'était, alors évidemment, l'aspect, comment dire, création de fiction, le romanesque, la péripétie, tout ça m'intéresse. Mais ce qui m'intéressait avant tout, c'est ce qui se passe dans nos cortex à nous, à chacun de nous, quand on est devant une histoire qu'on nous raconte. Voilà, quand on se laisse embarquer dans une histoire. Alors là, en l'occurrence, ce sont les fictions télé pour plein de raisons, parce que le phénomène des fictions télé m'intéresse pas plus que ça, sauf que depuis maintenant 20 ans, les vraies surprises nous viennent de là. En tout cas, plus que le Hollywood ou le cinéma ou quoi. Enfin, en tout cas pour moi, hein. Je veux dire, bon, la fiction avance, évolue. Et elle nous surprend par des objets complètement extravagants qui peuvent, de temps en temps, moi qui m'interpelle de temps en temps, c'est ce pourquoi ce sont des séries télé. Voilà, en gros, c'est à peu près le principe de sa retraite à lui.
Donc Léo regarde 10, 15, peut-être plus, séries, souvent en même temps, qui se passent en Italie, par exemple, au temps de la Renaissance, avec Michel-Ange, ou dans un centre pour alcooliques anonymes, ou une autre série dont le héros est à la fois riche et pauvre, c'est-à-dire que la semaine, c'est le patron, c'est un patron d'une méga entreprise, et puis le week-end, il vit une vie de clochard, où il y a encore un écrivain qui est en panne de succès, alors nous reviendrons sur celle-ci en particulier. Et donc à chaque fois, Tonino Benacquista, vous développez les histoires, nous aussi on s'attache aux personnages, vous donnez les titres, et en fait, quand on vérifie, aucune de ces séries n'existe, vous avez tout inventé. Pourquoi ?
Ah oui, pour plein de raisons. D'abord parce que j'allais pas utiliser un matériel préexistant, parce que ça voulait dire que le lecteur les a forcément vus. Puis en plus, j'utilise jamais le matériel de qui que ce soit. Et puis en même temps, parce que j'avais besoin d'outils particuliers que je devais affûter moi-même. C'est-à-dire qu'il fallait aborder tel type de situation dans telle série. Donc il fallait que j'invente la série. Mais en même temps, la question qu'elle soulève était préexistante à la série elle-même. D'abord, je me dis, tiens, j'aimerais bien un truc sur l'histoire du multimilliardaire qui, à un moment donné, va vivre dans la rue. Là, il y a un personnage qui est tellement extravagant et qui n'existerait jamais dans la vie réelle. Là, la fiction fait que ce type se pose des questions un peu particulières sur les privilèges et l'exclusion. Voilà, il a une manière à lui d'essayer de répondre à cette vision du monde. Donc, d'abord, le questionnement. Et puis ensuite, le dispositif narratif qui fait qu'on va aboutir à telle série. Et puis en plus, pour en terminer sur cette question-là, c'est quand même assez amusant aussi.
Et ce qui est très intéressant, de fait, Tonino Benacquista, c'est qu'au fur et à mesure de la lecture, se brouille de plus en plus la frontière entre la fiction que vous écrivez et les fictions que votre personnage regarde. Oui. On est dans une construction en abîme. On ne s'y perd pas, mais néanmoins, comment est-ce que vous faisiez, vous, pour distinguer à un moment les différents niveaux ? Est-ce que vous vous y perdiez ?
Ça a duré 3 ans. Disons qu'il y a eu peut-être une année où j'ai vraiment écrit toutes les fictions. Et puis, les 2 années qui ont suivi, c'était les organiser entre elles, les raboter, etc., de faire en sorte que voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Maintenant, lui passe de l'autre côté du miroir, mais nous aussi en tant que lecteur, parce qu'à un moment donné, eh ben lui, il va se retrouver derrière l'écran, si je puis dire. Il va lui aussi basculer dans un monde de fiction, même si voilà, je dévoile pas énormément de choses du truc, mais à un moment donné, il y a un basculement. Et ça, bon, je me suis aperçu ensuite, vraiment aux réactions que j'ai eues, que ça n'a posé problème à personne. C'est-à-dire que le fait qu'à un moment donné, lui-même se retrouve soit dans une série, soit rencontre dans la vie réelle un personnage, ou en tout cas, pour de bon, un personnage de fiction, ça, c'est quelque chose qu'on accepte très, très facilement. Et c'est là où on se laisse embarquer par le conte et la fable, même si à un moment donné, on perd absolument tout sens de la vraisemblance. Et c'est ce point-là que j'aime bien atteindre avec mon lecteur. Voilà, c'est qu'à un moment donné, il abandonne, je l'ai entraîné vers une situation où il accepte toutes les extravagances, voilà.
Harold, pense à ceux qui n'ont que ça, les histoires. Ceux qui sont exclus de la chose intellectuelle, démunis devant le discours. Ceux que la fiction aide à discerner les mensonges de leur époque. Elle leur rappelle leurs désirs premiers, elle met à leur portée des choix qu'ils n'avaient pas examinés. Elle est la revanche des humbles. Comme la musique, elle est un langage universel. Elle vise au cœur, elle a le pouvoir d'émanciper et de consoler. Elle sait réenchanter quand guette la résignation. Elle est le laboratoire de nos civilisations et le dernier espace de résistance, tant à l'autorité qu'à la morale. ton devoir de conteur t'impose de dire tout ce que t'es le politique, tout ce que le savant ne peut encore anticiper, tout ce que le penseur n'ose pas concevoir. Veille à ce que ton histoire n'exclue personne. Épargne-nous ton érudition et ta culture. Si tes états d'âme ne se font pas l'écho des nôtres, garde-les pour toi. Évite de nous rappeler que tu es un type bien, du bon côté, qui raisonne juste. Ne me dis pas ce que je dois penser, fais-moi ressentir. Réveille les exaltations étouffées par nos peurs, celles que nous ont léguées nos parents, que nous vendent les idéologues, les bavards médiatiques et les doctrinaires. Ne convoque pas le drame en vain, juste pour te tirer d'affaire quand ton récit fait du surplace, car ton lecteur a peut-être souffert dans sa chair. Ne lui fais pas cet affront, ne brade pas le malheur. Et si au final tu t'en sors dans la vie, tu n'as pas le droit, en guise d'épilogue, d'abandonner ton lecteur dans un monde dévasté et morbide. Envoie le pragmatisme et le sens commun se faire foutre. C'est parce que les contes de fées n'existent pas qu'on en a tant besoin.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivain Tonino Benacquista avec qui nous parlons de ce nouveau roman. Toutes les histoires d'amour ont été racontées sauf une qui est apparue aux éditions Gallimard. Alors là aussi, le titre est non pas trompeur, mais nous plonge quand même dans un monde un petit peu flou dans la mesure où vous racontez ici non pas une, mais deux histoires d'amour. Celle de votre personnage, Léo, et puis aussi celle d'Harold, écrivain fictif, dont Léo suit les aventures dans une série que vous avez intitulée Chapters. Une série qui donc n'existe pas plus que toutes celles dont on vient de parler depuis le début de cet entretien, mais c'est pas grave, c'est le pouvoir justement de l'imagination. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre en particulier pour votre roman, Tonino Benacquista ?
Oh, bah disons que pour l'anecdote, non, il y a eu pas mal de titres, hein, parce que voilà, j'avais un titre de travail qui n'était pas du tout celui-là, qui était En Enfer saison 1, qui était mon titre de travail. Pendant 3 ans, j'ai appelé ce bouquin comme ça, mais parce que c'était une référence à Rimbaud et une saison en enfer, parce que le type, là en tout cas, en l'occurrence, dans mon personnage se coupe du monde pendant la durée d'une saison, donc voilà, c'est ce clin d'œil qui m'amusait. Mais au final, non, il a fallu en trouver un autre, et puis voilà, il a été trouvé avec mon éditrice. Enfin, on a passé du temps parce que on a hésité entre plein de choses. Mais là, ce qui me plaît dans celui-là, c'est qu'il y a le mot histoire dans le titre, et que cette idée que toutes les histoires ont été racontées, c'est une idée que je connais. Enfin, j'entends ça souvent, et j'entends ça depuis toujours, l'idée que toutes les histoires ont été racontées déjà, et que de toute façon, il n'y a que les formes qui pourront évoluer, changer, apporter quelque chose de nouveau, les formes et le style. Mais que, au fond, les histoires seront à peu près toujours les mêmes depuis la tragédie grecque, quoi, on les a toutes à peu près racontées. Ce que je ne pense pas. Je ne pense pas ça du tout, sinon je n'aurais pas écrit ce bouquin. Je pense que la fiction peut toujours nous surprendre et va encore nous surprendre. Et c'est ce pourquoi toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une. Voilà, je me dis, voilà, il y en a toujours une qui va nous surprendre et qui est à venir devant nous, qui est devant nous. Voilà.
Et puis, ça doit être aussi un défi, peut-être, pour un écrivain d'écrire une histoire d'amour, parce que c'est peut-être le sujet sur lequel il a été le plus écrit. Est-ce que c'est un défi plus important que de faire un roman noir ou un roman social ou un roman tout court ? Le roman d'amour, est-ce que c'est un genre en soi qui est vraiment presque usé?
J'aurais du mal à répondre, mais j'ai très envie de répondre oui. Oui, à me dire que c'est effectivement un genre majeur et un genre certainement le plus délicat et le plus complexe, parce que tout le monde ne vit pas un roman noir, mais tout le monde vit une histoire d'amour. Fort heureusement d'ailleurs, dans les deux cas. Mais voilà, c'est-à-dire que ce matériau-là, qui de temps en temps va nous confronter à la passion, là aussi à des comportements peut-être extravagants, etc., qui d'une certaine manière, nous en tant qu'individus, ben, nous pousse à des sentiments littéraires, purement littéraires, et on les vit tous. Donc ce pourquoi il faut, quand on embarque un lecteur dans une histoire comme celle-là, il faut faire gaffe, quoi. Il faut tenir compte de Shakespeare et de beaucoup d'autres qui nous ont précédés. C'est-à-dire que oui, elles ont toutes été racontées, oui.
Et c'est surtout que les histoires d'amour, en général, finissent mal, surtout en littérature et au cinéma et dans tous les arts en général. on ne raconte pas d'histoire heureuse. Donc ça veut dire qu'il y a quand même aussi cet écueil avec lequel il faut composer, c'est que quoi qu'il arrive, on raconte une histoire d'amour malheureuse.
Pas forcément.
Ah.
Pas forcément. Donc raconter les aventures du bonheur, évidemment, ça pourrait devenir très très vite ennuyeux. Quoique, moi j'ai juste un aparté, mais j'ai fait exactement sur cette question-là, j'ai fait une BD avec Jacques Loustal qui s'appelle Les Amours Insolentes, où il y a 17 histoires d'amour. Et les 17 histoires d'amour sont heureuses. Et quand j'ai proposé ça à mon éditeur, il m'a regardé, il m'a dit, mais de quoi on peut parler des 17 histoires d'amour heureuses? Déjà une seule, il trouvait ça un peu excessif. Et en fait, j'ai dit non, voilà, il y a du romanesque dans le bonheur. Et donc, je fais 17 propositions d'amour heureux et romanesque. Et je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais j'ai travaillé pas mal dans ce sens-là, oui.
Oui, et d'ailleurs, ici, votre roman ne se termine pas si mal non plus. Il y a quelque chose qui revient.
On va ah pas... bah oui. Écrire un roman sans, je parle pas de happy end, hein, mais sans une porte de sortie au bout, comme ça, au fond, avec une lumière qui nous attire. Moi, en tout cas, je préfère rester sur cette note-là parce que je pense que c'est sur de l'espoir, mais c'est pas une affaire de bons sentiments. C'est ce aussi à quoi sert la fiction. Encore une fois, c'est pas le happy end, hein, c'est voilà, on fait un tour, complet, on fait un tour à 360. Peut-être on revient à l'endroit d'où on a démarré, mais plus rien ne sera jamais pareil. On est enrichi par ça. Voilà.
Donc la fiction, c'est un lieu de réflexion, d'identification, de réconciliation.
Oui, tout ça. C'est tout ce que vous venez de dire, oui. C'est tout ça. Ça peut être le lieu de la dramatisation aussi. C'est la fiction... a tous les droits, comme elle a des devoirs, elle a des droits, elle les a tous, quoi. Je veux dire, c'est heureusement qu'il y a cet espace de liberté absolue pour moi. Et voilà, la péripétie pour la péripétie, ça devient très vite ennuyeux. Maintenant, c'est au service de nous, de notre civilisation et de nos états d'âme. Je pense qu'on peut faire confiance à la fiction, ouais.
Il me semble aussi que votre roman, Tonino Benacquista, peut se lire comme la métaphore du lien entre l'écrivain et ses personnages, du créateur avec ses créatures, qui manipule qui influence qui, et en même temps avec beaucoup d'humilité, de simplicité. Par exemple, vous dites que la personne qui rédige les horoscopes dans un journal bouleverse plus la vie des gens qu'un romancier. C'est une blague ou un vrai constat?
Non, enfin, c'est une blague. C'est-à-dire, non, c'est pas une blague du tout. C'est-à-dire que c'est un romancier qui dit ça.
C'est vrai.
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui écrit, ou en tout cas qui se dit, voilà, il faut que j'apprenne à parler des gens qui m'entourent. Et donc, il se fait une très, très haute idée de la chose écrite. Et il se dit, voilà, avant d'essayer de changer la vie de mes futurs lecteurs quand j'écrirai des romans, eh ben, quand ils rédigent des horoscopes avec une seule ligne, il se dit, tiens, ça peut être une belle performance qu'il y ait une prise de conscience à un moment donné de celui qui va lire cette ligne et qui croit à l'horoscope. Voilà. C'est le même souci d'identification et d'appropriation du lecteur devant un livre où, voilà, c'est à peu près la même projection, quoi. C'est un parallèle un peu audacieux entre l'horoscope et le roman, mais voilà, on l'établit aujourd'hui.
Et ça vous ressemble bien. Et juste pour finir, maintenant que vous avez inventé tous ces scénarios de séries qui n'existent pas, vous avez envie d'en écrire une pour de vrai, pour de bon ?
Peut-être pas une qui est tirée de ce bouquin-là.
Non, mais...
Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça a été pour moi assez jubilatoire de faire ces propositions-là. C'est-à-dire, c'est parce que le roman me donnait cette liberté. Il se trouve que dans le réel, si, avec mon petit manuscrit sous le bras, avec un projet de série ou quoi, j'avais à toquer à des portes pour dire, écoutez, voilà, il faut raconter l'histoire de cet Harold, ou cette histoire de ce groupe de paroles, ou cette histoire de multimilliardaires, etc. Essayer de convaincre, de fabriquer cet objet, il faut des années, il faut, bon. Et dans le roman, je peux me le permettre. Je peux me permettre ça. J'ai toute cette liberté-là. Maintenant, dans le réel, c'est beaucoup plus complexe parce que, voilà, tout ça se fait pas sur juste l'imagination d'un auteur qui arrive en disant « c'est ça que vous devriez faire ». Là, je pourrais vous parler pendant très 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 longtemps des rapports avec des producteurs, mais ça serait très vite ennuyeux. Mais en tout cas, voilà, j'avais cette possibilité dans le roman. Écrire pour une série, pourquoi pas, mais il y a tout le temps beaucoup de temps perdu autour, quoi, avant que les choses aboutissent. Et c'est vrai que c'est un travail à plein temps qui n'est plus le mien, en tout cas.
Et à ce jour, quelle est la série qui vous procure le plus d'enthousiasme, là où l'est ?
Oh, bah moi, j'aime bien les. Il y a des classiques pour moi qui ont été très, très. Moi, les Breaking Bad et les choses comme ça, ça a été vraiment des très, très beaux moments. Des Six Feet Under, mais des choses qui sont maintenant, c'est étonnant parce qu'il y a assez peu de recul, mais ne serait-ce qu'en 10 ans, ce sont devenus des classiques, quoi.
We figure we're gonna start cooking again. A lot of money to be made.
I'm scared.
Scared of what?
You.
There's a lot of work ahead. A lot of rebuilding. You would be a great help.
Now when I talked to God, I knew he'd understand. He said, sit by me and I'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answers that you want me to.
Jesse and I have manufacturer cover. There's no denying the popularity of our product. There's a market to be filled.
Donc les séries ont changé, quoi. C'est plus... Ce ne sont plus des espaces récréatifs de divertissement, c'est aussi des lieux de réflexion comme la fiction. Quoi.
Mais bien sûr que oui, bien sûr que oui. Quelque chose comme Breaking Bad, par exemple, je pourrais en parler très très longtemps, mais Breaking Bad, oui, il y a des histoires de drogue, de machin, etc. Mais c'est surtout l'histoire d'un type qui fait naître son Mr. Hyde à lui. Parce que je suis persuadé que nous avons tous un Mr. ou un Mrs. Hyde dans nous. Lui le fait. Lui le fait à un moment donné dans cette série, et d'assister à la naissance de ce personnage qui va le venger de toutes les humiliations qu'il subit dans sa vie, ben il y a pour moi quelque chose de très très émouvant. Mais ça se fait sur 6 ou 7 ans, ou 5 ou 6 ans, voilà, pour en arriver là. Voilà. C'est ce pourquoi la série propose autre chose. Elle propose du temps, elle propose de l'investigation, de la lenteur, elle propose de la familiarité avec la familiarisation, d'intimité avec un personnage que l'on suit avec beaucoup de fidélité pendant tant d'années. Et il y a des amitiés qui durent beaucoup moins longtemps. Donc c'est ce pourquoi l'objet d'étude était plutôt la série.
Merci beaucoup, Tonino Benacquista.
Merci, merci.
Je rappelle le titre de ce nouveau roman. Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une, qui est apparue aux éditions Gallimard. Merci encore.
Merci.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.